Histoire en Quercy, sur Radio Présence, se propose maintenant d'offrir à ses auditeurs une nouvelle série de causeries sur le thème « Religion et politique en Quercy au XIXe et au XXe siècle ». C'est un thème qui est au cœur de la vie des hommes et des femmes de ce temps. En effet, le renouveau de l'histoire politique française, poursuivi depuis des années, fait une place éminente aux fêtes religieuses. Cela comme élément structurant des comportements individuels et collectifs dans la vie publique. Ainsi, deux domaines apparemment séparés, mais aujourd'hui réunis dans les travaux des historiens, dans la lignée de René Raymond, de Bernard Cholvy, de Marie Hilaire, auteurs d'ouvrages devenus des références. Au départ donc, deux domaines très différents. D'abord, le fait religieux, dans ses composantes dogmatiques, mais aussi sociologiques, pour se contenter d'un terme globalisant. Ce fait religieux donc s'inscrit dans la longue durée multiséculaire du christianisme en Occident, qui a largement façonné la société jusqu'à l'époque immédiatement contemporaine, jusqu'à notre époque. Évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui, même si l'imprégnation chrétienne est loin d'être effacée, bien moins que certains auteurs peuvent l'affirmer. L'Église, en effet, et c'est sa spécificité pour nous chrétiens d'Occident, attend le retour du Christ dans sa gloire, et sa vocation est de préparer le peuple chrétien à bien recevoir ce retour à la fin de son pèlerinage sur la terre. L'Église donc veut surtout ne pas être gênée dans sa mission et elle travaille à cela tout autant qu'à propager la bonne nouvelle. La politique, par contre, puisque c'est le second terme de notre propos et de notre programme, la politique relève d'un tout autre ordre d'idées. La politique, c'est le gouvernement des hommes, régi par des lois qui encadrent la société, qui protègent, qui sanctionnent aussi. Tout cela au moyen d'institutions qui, au plan national comme au plan local, exerce l'autorité. Au sommet de l'État, depuis la Révolution de 1789, une constitution définit les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires et les modalités de leur action. Mais la politique, c'est aussi la participation des citoyens aux affaires de la cité, du pays. Cette participation, elle ne s'est réellement affirmée en France qu'au XIXe siècle, après le choc majeur de la Révolution de 1789. Ce fut une lente conquête dont les étapes essentielles sont le suffrage universel, devenu effectif en 1848, et le droit de vote enfin accordé aux femmes en 1945. Mais la politique, dans le cadre chronologique que nous avons choisi, c'est aussi les choix que le gouvernement national, avec Paris pour lieu de décision, a imposé à l'ensemble de la nation française. Ça peut être des choix idéologiques, notamment issus de l'exercice normal des institutions, c'est-à-dire décidé par le Parlement ou par un référendum. On disait plébiscite autrefois, on dit aujourd'hui référendum. Mais aussi ça peut être des décisions forcées à la suite d'un coup d'État, d'un coup de force, pour reprendre le langage politique. Ces décisions politiques s'appliquent au court terme, c'est-à-dire à l'immédiatité ou au moyen terme. Elles ne sont pas discutables. Et le pouvoir le fait savoir, que l'on soit à Paris ou à Cahors. On touche là donc l'essentiel des rapports entre la religion et la politique. Comment les chrétiens de la catholicité quercinoise ont vécu ces rapports au fil de l'histoire nationale, au gré des multiples changements politiques depuis 1789. Ils sont bien connus. C'est la Première République qui guillotine le roi, puis l'Empire napoléonien, suivi de la restauration de la monarchie en 1815, avec un changement de dynastie en 1830. C'est la République à nouveau, la seconde, en 1848, vite remplacée par le Second Empire, celui du neveu Napoléon III, lui-même fracassé en 1870 par les désastres militaires. Ce qui a amené la République, qui perdure aujourd'hui, sous des numérotations différentes, 3e, 4e, 5e, et cela sans interruption, mis à part le régime du maréchal Pétain de 1940 à 1944. Notre propos est donc de présenter comment les chrétiens lotois ont réagi tout au long de ces différents régimes et d'étudier ces rapports entre religion et politique à notre échelon départemental ou diocésain, puisque c'est la même chose. Depuis 1791, en effet, date de la création du département, diocèse et département sont confondus. Ces rapports relèvent d'une complexité évidente, qu'il s'agisse de la hiérarchie, évêques et prêtres, ou des fidèles qui sont chez nous des ruraux, surtout, dans leur très grande majorité. Les réactions ne sont pas identiques selon les milieux face aux décisions officielles. Pour schématiser et employer une expression familière, on dira, selon les périodes, que religion et politique font bon ménage, ou au contraire qu'il y a entre elles incompatibilité, rupture et parfois de douloureuses violences. Voilà ce que les prochaines causeries se proposent de décrire en s'appuyant sur des travaux locaux de qualité, d'auteurs laïcs et parfois ecclésiastiques. Je pense notamment aux travaux considérables du chanoine Saul, qui fut archiviste diocésain, qui a recueilli des centaines de témoignages sur la vie en Quercy pendant la Révolution et au XIXe siècle. Je pense aux travaux de Mgr Jean Calvé, enfant du Quercy lui aussi, éminent professeur à Toulouse et à Paris, très au fait de la société quercinoise dans laquelle il a été élevé, petit élève au séminaire de Montfaucon, au petit séminaire de Montfaucon, puis au grand séminaire de Cahors. Jean Calvé qui a donné une analyse remarquable du diocèse de Cahors au début du XXe siècle. Article qui fait autorité aujourd'hui. Je pense aussi au regretté Clément Nastorgue, l'abbé Clément Nastorgue, professeur à Toulouse et longtemps curé de Gramat, dont le travail universitaire sur le Quercy, au début du XIXe siècle, lui aussi, fait toujours autorité. Telle est l'optique générale de ce que nous proposerons par conséquent aux auditeurs de Radio Présence, cet éclairage extrêmement riche dans la vie du Quercy et dans la vie de l'Église du diocèse. Nous commencerons par étudier la religion et la politique sous la Révolution. C'est là effectivement que tout va se nouer. Un mot de la situation sous l'Ancien Régime, pour comprendre le véritable séisme politique que la Révolution de 89 a introduit chez nous. Avant 1789, du point de vue politique, c'est très simple. C'est l'union du trône et de l'autel. À la tête du pays, le roi, qui est un roi de droit divin, et dont le titre officiel est le roi très chrétien. Il y avait 135 diocèses dans le royaume avant la Révolution, et c'était le roi qui nommait les évêques depuis le Concordat de Bologne sous François Ier. Le clergé était nombreux, haut et bas clergé, nombreux également les ordres religieux d'hommes et de femmes qui encadraient le peuple chrétien. Ce peuple chrétien qui était attaché à la religion de ses pères, ainsi que en témoigne la pratique qui était absolument générale à ce moment-là et qui entraînait dans l'épaisseur du peuple peu de contestation, même s'il pouvait y avoir des manifestations d'anticléricalisme ou de rejet sur tel ou tel point. Dans l'ensemble, c'était une évidence, l'union entre le pouvoir politique et l'Église. En effet, d'ailleurs, toute la société était structurée, puisque il y avait, pour classer en quelque sorte les sujets du roi, trois ordres, trois structures, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ce sont les députés de ces trois ordres qui sont venus en 1789 à l'appel du roi Louis XVI. La participation, on peut dire qu'elle était assez nulle dans la vie du pays. Les sujets du roi ne décidaient pas. Ce n'est que dans la paroisse qu'il pouvait y avoir des assemblées des fidèles, des hommes pour discuter des affaires communes ou pour désigner quelqu'un qui était responsable devant l'impôt. Les informations politiques étaient très succinctes puisqu'il n'y avait pas de journaux qui pouvaient toucher un gros ensemble de la population. Les nouvelles politiques étaient données lors de la messe dominicale, dans ce que l'on appelait le prône. Le prône, c'était le moment où, après la lecture de l'Évangile, le prêtre, toujours en chair, prononçait son homélie, mais donnait en même temps des nouvelles du royaume, des nouvelles des défaites, des nouvelles des succès des armées du roi, des nouvelles de la famille royale, naissance, décès. Et c'est au cours d'un de ces prônes que, dans chaque paroisse du Lot, comme dans chaque paroisse de France, fut annoncée la convocation des États généraux. Le roi convoquait les États généraux. C'était une véritable entrée en politique des Quercinois, puisqu'on leur demandait de dire ce qu'ils voulaient dans ces fameux cahiers de doléances que chaque paroisse devait rédiger et qui serait ensuite centralisé au siège de la province pour en faire une synthèse qui serait envoyée elle-même à Paris. Ainsi, chaque paroisse du tiers-état s'exprime en tant que tiers-état, c'est-à-dire tous ceux qui ne faisaient pas partie des deux premiers ordres du royaume, le clergé et la noblesse. Ces deux premiers ordres, d'ailleurs, rédigeaient leur propre cahier. Et quand on lit aujourd'hui la collection de ces cahiers de doléances en Quercy, dont on a conservé de nombreux exemplaires, pas la totalité malheureusement, il arrive parfois par un hasard qu'en fouillant dans une bibliothèque on en retrouve quelques-uns, c'est ce qui s'est passé à Martel au moment du bicentenaire de la Révolution. Ces cahiers expriment tous leur satisfaction. Le roi est remercié très chaleureusement. Il est béni en quelque sorte d'avoir donné la parole à ses sujets. Il faut noter en même temps que le clergé était très mêlé souvent à la rédaction de ces cahiers. Les curés et les vicaires des paroisses pouvaient être appelés à l'aide pour rédiger ces cahiers, étant donné que dans les paroisses, il se trouvait peu de monde qui avait l'aisance de l'écrit. Ces cahiers nous sont précieux pour savoir les desiderata des sujets du roi, qui protestent contre le prélèvement de l'impôt, bien sûr, qui est jugé trop lourd, qui décrivent la misère des campagnes surpeuplées, la misère qui cause beaucoup de mendicité, d'insécurité. Ils protestent, pour résumer, nous n'allons pas faire toute une analyse des cahiers, ce serait beaucoup trop long, qui protestent contre les abus du système seigneurial, puisqu'en effet, la terre du royaume était divisée en seigneuries. Nulle terre sans seigneur, disait-on. Héritage du lointain passé médiéval du royaume. Et tout naturellement, il y avait des redevances qui étaient dues au seigneur, que ce soit un noble ou que ce soit quelqu'un qui avait acheté une seigneurie. Et cela, évidemment, ne plaisait pas beaucoup à la classe paysanne. Il en était de même, et c'est là que nous touchons le rapport avec la religion, de la dîme. La dîme était prévue, la dixième gerbe, disait-on, était affectée au clergé. Et cela aussi n'était pas très bien vu. En principe, cette dîme servait aux œuvres, puisque le clergé était à l'époque chargé de l'assistance publique, de ce que nous appelons aujourd'hui l'assistance publique. Il n'y avait pas d'assistance publique d'État, où il y avait quelques initiatives simplement. C'était le clergé qui tenait les hôpitaux, qui participait à la bienfaisance publique. Donc en principe, la dîme était affectée à ce service. Donc, dans ces cahiers, beaucoup, bien sûr, de récriminations, il n'empêche que personne ne demande l'abolition de la royauté. On voit au contraire proclamer sans cesse l'amour du roi que l'on remercie. On peut parler d'ailleurs ainsi d'une véritable idylle révolutionnaire à laquelle participe la religion. Les délégués des trois ordres, clergé, noblesse, tiers-état, au nombre de 856, se sont réunis à Cahors pour une messe solennelle à la cathédrale le 16 mars 1789 pour désigner les députés. Alors évidemment, il y avait une énorme disproportion entre les trois ordres. Le clergé et la noblesse étaient infiniment moins nombreux que l'ensemble du peuple qui était dans le tiers-état. Aussi avait-on décidé à Versailles qu'il y aurait doublement des députés du tiers, c'est-à-dire qu'il, pour le Quercy, pour le diocèse de Cahors, il y avait 6 députés pour le tiers-état, 3 pour le clergé, 3 pour la noblesse. Alors pour le clergé, les 3 députés étaient d'abord l'évêque de Cahors, Monseigneur de Nicolaï. Il était âgé, il était fatigué, il ne parut jamais aux états généraux. Il y avait aussi l'abbé Hérol, qui était curé de Reyrevigne depuis 1756, et l'abbé Leymarie, curé de Saint-Privat, près de Montcuq. Le tiers-état, lui, avait 3 avocats. Les députés du clergé étaient hostiles aux réformes et les députés du tiers-état étaient favorables aux réformes. Tel était le tableau de ce premier mariage, en quelque sorte, entre la religion et la politique en Quercy.